CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Avec aujourd'hui, eh bien, on va parler pêche en deuxième partie de cette émission, puisque ce week-end, c'était l'ouverture de la pêche à la truite dans le Lot. Et j'espère que vous en avez bien profité. Nous serons donc avec le directeur de la Fédération de pêche du Lot. Mais dans un premier temps, on va parler un petit peu politique avec le député lotois Aurélien Pradier, qui a décidé donc de se présenter au régional donc, et de se présenter face à Carole Delga. Bienvenue. C'est votre magazine sur CFM Cahors. Et oui, c'est au mois de juin, les élections départementales et régionales vont se dérouler au mois de juin prochain. Et donc, Carole Delga, elle va se représenter forcément. Et puis, il y a Aurélien Pradier qui a décidé de mener la tête de liste pour représenter les Républicains dans cette élection. Alors, il est notre invité avec nous. Bonjour Aurélien Pradier.
Bonjour.
Alors, en tant que député du Lot, cette fois, vous engagez donc dans les régionales. Vous allez représenter la tête de liste des Républicains. Alors, pourquoi cet engagement ?
Parce que je pense que la politique, c'est une affaire de courage. Je suis député du Lot, je resterai député du Lot, évidemment. Je rassure les Lotois, je continuerai mon engagement au service de ce territoire. Mais le Lot, il a aussi besoin de l'Occitanie. On a aussi besoin de cette grande région. Je pense que nos territoires ruraux sont un peu oubliés, la grande métropole toulousaine notamment. Et donc, comme député du Lot, je vais tâcher de porter la voix des territoires ruraux dans cette grande région. Ce sera une manière pour moi de contribuer à faire entendre la voix de notre département dans ce grand territoire. Et puis, au-delà, de contribuer à porter un projet régional. Moi, je crois beaucoup que cette région a de grands atouts, qu'elle doit pouvoir faire plus pour notre jeunesse sur des grandes questions comme l'emploi, comme la santé. Voilà, tout ce que j'ai pu apprendre et que je continue à apprendre comme député, je vais tâcher de l'apporter avec ma personnalité, ma jeunesse aussi, au débat régional et au projet politique pour la région.
Mais Aurélien Pradier, vous dites que vous voulez rassembler autour d'un projet ambitieux. C'est quoi un projet ambitieux pour vous ?
D'abord, c'est un projet qui parle à tous les habitants de la région Occitanie. Vous savez, on a un grand défi. Cette région, elle est très grande, elle est très variée. Il faut donc être capable de faire du sur-mesure. Tous les habitants de l'Occitanie, c'est une proposition, des propositions et un projet pour chaque département de cette grande région. C'est ce que je ferai. Et puis un projet ambitieux, c'est un projet qui est capable de rassembler notamment la jeunesse. Je ferai des propositions pour faciliter l'accès aux emplois pour nos jeunes. On a un sujet très difficile dans les semaines et les mois qui viennent. Je souhaite que nous ayons un projet agricole très fort au niveau de notre région, un projet environnemental aussi. Bref, c'est sortir de tout ce qui fait un peu la routine de la région Occitanie depuis quelques temps, qui fait beaucoup de communication, mais qui, à mon sens, pourrait faire beaucoup mieux en termes d'action.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, alors, de ce côté-là, vous ? Qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, être nécessaire de changer, concrètement ?
D'abord, on a un travail à faire sur la gestion de cette région. Vous savez, la grande région, elle coûte un argent fou. Je vous prends un exemple simple, deux exemples. L'endettement de la région a augmenté de près de 48% depuis le début du mandat de Carole Delga. C'est donc une augmentation très très importante qui nous empêchera dans les années qui viennent de porter des vrais projets. Ensuite, chaque réunion du conseil régional coûte près de 100 000 euros. 100 000 euros la réunion. Donc on a d'abord un travail à faire pour assainir les comptes et la gestion de cette région et dégager des moyens, notamment, je le disais, sur l'agriculture. Moi, je souhaite que nous ayons un projet autour de l'alimentation, qu'on puisse faire de cette région la première région gastronome de France, en associant nos producteurs, nos restaurateurs, nos artisans, nos jeunes apprentis. Donc je proposerai un projet sur cette question de faire de l'Occitanie la première région gastronome de notre pays. Et puis, je le disais tout à l'heure, sur la question de la jeunesse, on est une région qui va être touchée assez durement, notamment par les questions de baisse d'activité dans l'aéronautique. Il faut que nous soyons capables de proposer un pacte avec notre jeunesse pour mieux les former, pour leur assurer un revenu vital. Bref, tout ça sont des propositions que je ferai durant les semaines qui viennent. La campagne est encore longue et j'aurai l'occasion de vous en reparler.
Est-ce que vous savez avec qui vous allez vous entourer ?
J'ai commencé à solliciter dans les départements, les différents départements de la région, des femmes et des hommes qui d'ailleurs n'ont pas toujours mes idées politiques. Moi, j'ai mes convictions politiques, je les affirme clairement, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'est une manière d'ailleurs de respecter les électeurs en ne faisant pas le caméléon. mais j'aurai autour de moi des femmes, des plus jeunes, nouvelle génération qui veut s'engager, et des femmes et des hommes de tous les horizons, de ma famille politique, mais aussi du centre, et puis aussi de la société civile. C'est l'étape qui m'attend dans les jours qui viennent, c'est de commencer à former cette équipe dans chaque grand département et beau département de notre région.
Vous savez que pour l'instant, là, les sondages montrent un engouement, on va dire, pour Carole Delga face au Rassemblement National. Alors, c'est vrai que vous n'aviez pas encore votre liste avant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour inverser la situation, que ce ne soit pas le Rassemblement National qui passe ?
Il faut travailler. Il faut travailler et faire des propositions, porter un discours nouveau. Moi, je me suis aussi engagé parce que je refuse que on ait seulement le choix entre le Rassemblement National et la gauche socialiste. Je pense qu'on doit pouvoir offrir aux habitants de cette région un autre choix. Puis chacun se décidera en fonction de ses convictions. Mais moi, je veux aussi pouvoir tenir face aux extrêmes qui aujourd'hui s'installent et faire en sorte que les habitants de cette région n'aient pas toujours le même choix entre les mains, puissent aussi tenter une nouvelle génération. C'est sur le projet que se fera la différence. Il faut compter sur moi pour le défendre.
Vous dites pas d'alliance non plus, et surtout pas avec La République En Marche, mais s'il fallait faire barrage au Rassemblement National, vous resterez sur votre position ?
Je crois que la meilleure manière de faire barrage au Rassemblement National, c'est de ne pas faire de tambouille politicienne. Moi, je reste fidèle à mes convictions politiques. Ça ne m'empêchera pas de rassembler. Et vous savez, ce qui fait que les Français et les habitants de l'Occitanie ne supportent plus les politiques, c'est parce qu'ils les voient faire des accords, des alliances contre nature au fur et à mesure du temps. Moi, je ne suis pas La République En Marche. Il y a un candidat de La République En Marche qui se présente. On comptera les points, on verra qui l'emporte. Je lui souhaite bonne chance parce que je crois que c'est pas facile d'être candidat de La République En Marche compte tenu des nombreux échecs de La République En Marche depuis plusieurs mois et plusieurs années. Donc moi, je n'ai pas à commencer à bidouiller, à faire des alliances contre nature. Je pense qu'on l'emporte quand on est clair dans ses convictions.
Est-ce qu'on peut faire une bonne campagne et donner vraiment ses idées et les faire valoir quand on est dans une situation comme on l'est actuellement, avec la crise sanitaire qui prédomine tout et des départementales et régionales en élection qui n'intéressent personne pour l'instant ?
C'est une vraie problématique. Il va falloir que nous allions chercher les abstentionnistes. Je comprends, on est dans une période de crise sanitaire, mais il faut aussi que la vie démocratique existe. On ne peut pas reporter les élections en permanence, c'est aussi un moment de démocratie. Donc oui, ça va être une difficulté d'aller convaincre les habitants de cette région que l'élection régionale elle est importante, même en période de crise sanitaire.
Votre campagne, vous la commencez quand ?
Écoutez, elle a déjà commencé depuis cette semaine, et puis je vais la poursuivre dans les semaines qui viennent. J'irai tous les jours dans un département de la région, rencontrer des associations, des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes qui ont envie de s'impliquer. Donc dès la semaine prochaine, je commence à sillonner les routes de notre région, et je commencerai à Toulouse pour parler du handicap, qui est un combat auquel je tiens, et sur lequel je crois que la région pourrait faire bien des choses.
Et en cas d'élection, vous restez dans vos fonctions au sein des Républicains ?
Oui, parce que je peux tout à fait être conseiller régional et député. Et puis, vous savez, le Lot, c'est une grande histoire d'amour pour moi, donc je n'abandonnerai jamais le Lot. Bon, c'est le moment de faire exister nos territoires ruraux dans cette région. Et puis, venant du Lot, je saurai revendiquer aussi ce que le Lot peut avoir d'atout dans cette grande région.
Merci beaucoup, Aurélien Pradier.
Merci à vous.
Et rendez-vous donc les 13 et 21 juin pour les prochaines élections régionales et départementales. Dans un instant, nous partons à la pêche dans le Lot, à la pêche à la truite.
Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Parlerai-moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai-moi. Peut-être le jour où la terre s'entr'ouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
14 mars 2009, Alain Bachung nous quittait après avoir fait une tournée qui est quand même assez remarquable du fait qu'il était déjà malade. Et puis non sans nous avoir laissé un excellent album, un très joli album qui est Bleu Pétrole, dont est tiré ce titre Résident de la République.
CFM, CFM, CFM Radio, CFM Cahors. CFM Cahors, le mag.
De retour dans le mag sur CFM Cahors avec cette fois eh bien, la pêche à la truite, ça a commencé. Oui, ça a commencé, c'est bien. C'était ce week-end d'ailleurs, entre parenthèses. Est-ce que vous en avez profité? Parce que là, ça y est, ça veut dire qu'il y a une saison qui arrive. Mais attention, il y a aussi le couvre-feu. Alors comment ça se passe de ce côté-là? Nous allons le savoir avec notre invité qui est donc avec nous, Patrice Jaubert. Bonjour Patrice Jaubert.
Bonjour Yannick.
Alors ça y est, l'ouverture de la pêche a eu lieu, mais pas n'importe quelle pêche. Hein. Il faut bien préciser que depuis ce week-end, on ne pêche pas n'importe quel poisson.
Tout à fait. C'est l'ouverture, en fait, samedi, c'était l'ouverture de la première catégorie piscicole, qui sont des milieux à truite. Donc en fait, on appelle ça l'ouverture de la truite plus globalement, mais en fait, pour être complètement précis, c'est tous les ruisseaux et les plans d'eau de première catégorie qui ont ouvert ce samedi 13 mars.
Alors, est-ce qu'il y a des endroits qui sont interdits de pêche?
Alors, il y a des réserves de pêche, il y a quelques réserves de pêche sur le département du Lot qui sont, aujourd'hui l'intérêt c'est que nous avons mis à jour notre site internet depuis cet été et tous les équipements de la fédération, toutes les réserves de pêche sont géolocalisés sur une carte interactive que l'on peut également consulter depuis son téléphone ou sa tablette. Donc même si on n'a pas le document papier, le guide départemental, grâce à cette carte interactive, on peut très précisément localiser les réserves. Pas de problème par rapport à ça.
Donc là, si je comprends, c'est-à-dire que même quand on est sur place, on a envie d'avoir un renseignement, c'est possible de le consulter avec son smartphone?
Tout à fait, sous simple réserve qu'on ait du réseau, ce qui n'est pas toujours le cas du département.
Bien sûr, c'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. Et généralement, il nous arrive aussi d'aller pêcher dans des endroits bien isolés pour être tranquille. Et bah voilà, oui, c'est vrai. C'est pas
faux. Le mieux, c'est de consulter un petit peu, si tu veux, la carte des réserves avant de se rendre sur le site. Voilà.
Donc, on précise la réglementation par rapport à ça. La pêche, premièrement, il faut avoir l'autorisation.
Alors l'autorisation, ben, c'est tout simplement être détenteur d'une carte de pêche. Hein. C'est inscrit dans la loi, dans le marbre, puisque c'est le code de l'environnement qui le prévoit. Avoir une carte de pêche, ça peut être une carte journée, ça peut être une carte hebdomadaire ou une carte à l'année, avec des tarifs qui sont complètement différents selon si on est un jeune de moins de 12 ans, un jeune entre 12 et 18 ans ou un adulte.
Est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas besoin de carte de pêche pour pratiquer?
Alors, non, ça reste très exceptionnel, notamment dans notre département, si tu veux. De toute façon, nous, en tant que gestionnaire de la pêche associative en eau libre, tout ce qui est eau libre relève de la compétence de la fédération. Et là, il faut une carte de pêche. Quand je dis une eau libre, c'est tout ce qui est connecté avec une source, avec un cours d'eau, que ce soit par l'amont, par l'aval, donc toutes les eaux courantes, si tu veux. Les seuls endroits où il n'y a pas besoin de carte de pêche, c'est ce qu'on appelle les eaux closes. Mmh. Des eaux closes, il y en a vraiment très très peu dans le département, quasiment pas. Ou après, éventuellement, certains plans d'eau privés, si tu veux, d'exploits de pisciculture privée, qui font payer la carte à la journée.
Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que vous, la Fédération de pêche, hein, cette ouverture-là, sachant qu'il va y avoir une autre prochainement, mais ces ouvertures de pêche-là, vous travaillez déjà en amont depuis cet hiver.
Ah oui, on travaille en amont sur beaucoup de choses, si tu veux. En fait, l'hiver, c'est la saison... À la pisciculture, c'est la saison où mes collègues travaillent sur l'élevage, la ponte et l'élevage des truites fario de souche que nous avions à la pisciculture du Colombier. Sachant que une truite qui est déversée à la taille légale de capture pour l'ouverture, c'est une truite qui a plus de deux ans et demi.
D'accord.
Donc il y a plusieurs générations de truites puisque nous faisons les pontes sur site. Ça, c'est sur l'aspect technique de la pisciculture. Et ensuite, c'est avant l'ouverture, c'est un mois et demi de livraison tous les jours, si tu veux. Donc, il y a énormément de déplacements. Et ça continue après l'ouverture, d'ailleurs, notamment sur les plans d'eau. D'un point de vue plus administratif, nous, ici, on est sur l'élaboration de partenariats avec le département, avec la région, avec l'agence de l'eau d'Ourgaronne, avec EDF, en vue d'obtenir des financements sur nos actions qu'on va mener en 2021. Quand je parle d'actions, ça va être des actions d'installation de suivi de récifs, des actions de suivi des populations, de restauration de frayères à brochets, par exemple. Donc voilà, il y a un travail administratif qui demande une anticipation de notre programme, qui demande de convaincre nos partenaires de nous apporter des financements, et ensuite on rentre en phase action opérationnelle, printemps, été, automne.
Les prochaines ouvertures de pêche, c'est quoi et c'est quand ?
Alors, deuxième grande date, ça va être le 24 avril, c'est la date de l'ouverture du carnassier. Donc ouverture du carnassier signifie donc ouverture du brochet, du cendre, du black bass, de la perche. Ça signifie également que l'on peut pêcher au leurre ou au vif en deuxième catégorie piscicole. Et donc c'est aussi l'occasion de reprospecter des cours d'eau à truite de deuxième catégorie, mais cette fois-ci avec l'autorisation de pêcher au leurre, puisque la pêche au leurre en deuxième catégorie, elle, est interdite avant le 24 avril. Donc, pour faire simple, première catégorie, on peut pêcher au leurre sans difficulté depuis samedi. En revanche, sur le scellé en deuxième catégorie ou sur la Dordogne, par exemple, on ne pourra pêcher la truite au leurre qu'à partir du 24 avril.
Évidemment, c'est un langage que les pêcheurs comprendront facilement, bien sûr. Où est-ce qu'on achète sa carte de pêche ?
Il y a un choix vaste, puisque dans le département, nous avons une centaine de dépositaires de cartes de pêche. Alors, bien sûr, tous les magasins d'articles de pêche, les offices de tourisme. Je ne veux pas citer tout le monde de façon exhaustive, mais on est partenaire avec les Gammes Verts aussi, par exemple. Et ensuite, tous les petits commerces locaux, les petits commerces ruraux, en général, sont dépositaires de cartes de pêche. La liste est accessible sur le site Internet. Mais aussi, on peut très bien faire sa carte de pêche depuis chez soi, hein, sur le site www.cartedepêche.fr, où on fait sa carte de pêche en 5 minutes, on l'imprime et on va à la pêche immédiatement après. J'en termine aussi pour te dire qu'on peut bien sûr les faire à la Fédération, mais qu'il existe aussi une application qui s'appelle Génération Pêche. Donc, c'est une application qu'on télécharge sur son mobile et on renouvelle sa carte de pêche de façon numérique. Et du coup, sa carte de pêche s'affiche sur le téléphone. Il n'y a même plus besoin de l'imprimer grâce à cette application.
Ah, ça, c'est une bonne idée, effectivement. Ça,
ouais,
ça...
c'est une innovation de l'an dernier. C'est très pratique. En plus, cette petite application Génération Pêche permet également de tenir à jour un carnet de capture, par exemple, ou d'enregistrer ses captures. C'est intéressant pour le pêcheur.
Dernière question, Patrice Jaubert, les journées se rallongent. Quelle est la case qu'il faut que je coche sur mon attestation de sortie si je veux pêcher après 18h ?
Ah, tu ne caches aucune case.
Pas facile à dire, hein.
Voilà, tu m'as pris au piège. Tu ne coches aucune case, donc du moins jusqu'à maintenant, puisqu'il n'y a pas d'autorisation de sortie après 18h, y compris pour la pêche de la carpe de nuit, hein, puisqu'il y a certains carpistes qui avaient l'habitude de s'installer au bord des cours d'eau la nuit. Donc on espère très fortement que ce couvre-feu va être levé, notamment pour nos activités qui sont quand même en milieu rural, en espace naturel, hein, qui ne présentent pas de risque. Mais à l'heure où je te parle, il n'y a aucune consigne du gouvernement qui nous autorise à sortir après 18h. Voilà, donc ça, la pêche se pratique en gros à partir de 6h45 le matin. Mmh. Donc on a de 6h45 à 18h pour pratiquer, pour se faire plaisir, mais voilà, jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas pêcher après 18h.
Eh ben, en tout cas, on va souhaiter quand même, parce que les journées sont quand même là, et ça permet effectivement des bonnes pêches, et on va souhaiter à tous les pêcheurs de belles prises et de bons moments. Merci beaucoup Patrice Jaubert.
Merci à toi Yannick.
Patrice Jaubert, le directeur donc de la Fédération française de pêche et de protection des milieux aquatiques, avec donc pour le côté pratique, la carte de pêche qui est en vente chez les dépositaires habituels. Vous pouvez aussi la retrouver sur pêchelotte.com. Donc voilà, faites-vous plaisir. Après tout, hein, on est au printemps et ça peut pas plus mal comme ça.
Volute part en fumée, volute fond des nuées de scrupules. Volute part en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances. Me lance des dagues et des lances en toute innocence. Des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Volute part en fumée, sous les yeux embués, l'étrange libellule. Pour une grimace et un rictus de plus, je fais deux heures sur, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages dans le chapeau d'âge. Et mon corps de se vouer à des lunes surdouées.
Et on se termine avec ce titre de Bachung pour voilà, parce que hier c'était effectivement l'anniversaire de sa mort. Ce magazine est à retrouver en podcast sur cfmradio.fr et également à réécouter tout à l'heure à 17h ainsi qu'à 21h30 dans quelques instants le journal.
Mes réponses allongées, mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air,